Orion Hebdo, Éric Bataillon.
Quoi de mieux qu'une visite de terrain pour mieux comprendre les enjeux politiques et sociaux d'un pays ? La semaine dernière, un groupe de jeunes diplômés de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, emmené par l'un de ses professeurs et spécialistes du Maghreb, Ali Ben Saad, s'est rendu en Tunisie. Les étudiants ont visité les différents lieux du pouvoir à Tunis et les hauts lieux du soulèvement. Ils ont parcouru l'avenue Bourguiba et traversé la Médina. Enfin, ils ont rencontré des observateurs et des acteurs de la révolution en cours depuis 2011. Orient Hebdo a pu les accompagner et c'est notre reportage qui commence dans la ville coloniale.
Demandez là.
Oui, parce que tout le monde est là.
Imen Weslati, nous sommes juste à côté du théâtre ici à Tunis, sur l'avenue Bourguiba. En quoi cet endroit est-il emblématique de la révolution de 2011 ?
Voilà, l'avenue Bourguiba, l'artère principale donc, du centre-ville de Tunis. C'est aussi le premier artère centrale de la ville coloniale. Déjà, c'est un espace très emblématique, non seulement par rapport à la période de l'histoire contemporaine de la Tunisie post-révolution, mais même avant cette date-là, puisque c'est un espace qui a une forte charge symbolique, charge politique. C'est l'artère principale du centre-ville original de la ville de Tunis. C'est l'espace d'identité, c'est l'espace de mémoire collective. C'est un espace qui a été tout au long de l'histoire de la Tunisie associé à des événements politiques, économiques, sociaux, culturels qui ont marqué donc son histoire. Pour revenir maintenant à l'événement de la révolution du 14 janvier, c'est sûr, vous savez, donc là, cet événement a commencé suite à l'émotion de Bouazizi à Sidi Bouzid datant à la date de 17 décembre 2010 et il y a eu donc des mouvements sociaux qui ont continué jusqu'à 14 janvier où donc ces mouvements-là ont atteint donc la capitale et où il y a eu donc un regroupement de dizaines de milliers de la population donc des Tunisiens et des Tunisiennes ici donc en face du ministère de l'Intérieur à l'artère principale donc de cette avenue-là et on a prononcé le mot magique dégage pour justement concrétiser et aboutir donc au déchu du dictateur Ben Ali. Et voilà, c'est là pourquoi c'est un lieu emblématique. C'est un espace de regroupement. À partir de cette date-là, effectivement, ça s'est devenu un espace de liberté d'expression pour tout Tunisien et toute Tunisienne. Et c'est un espace qui est emblématique et qui est associé à énormément d'enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels, même anthropologiques.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des manifestations sur ces lieux emblématiques ?
Ben oui, voilà, on voit déjà une manifestation qui est là actuellement. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que depuis le 14 janvier, il y a une sorte de réappropriation de l'avenue Bourguiba partout, Tunisien et Tunisienne, comme étant un espace public d'expression libre. C'est un espace de revendication, c'est un espace de manifestation, c'est-à-dire, à partir du moment où on veut transmettre un message, bien sûr, il y a la démarche officielle administrative, mais quand même, ça devient un espace qui permet de transmettre son message d'une manière publique, d'une manière directe, et surtout pour s'attirer l'attention par rapport à l'émetteur de ce message-là. Là, par exemple, il y a une manifestation qui est faite par des jeunes diplômés, apparemment, qui n'arrivent pas à accéder au marché du travail et ils veulent transmettre le message par rapport au ministère de l'Éducation. Et leur principale revendication, c'est justement réviser la loi qui va fluidifier et faciliter leur accès et trouver les outils nécessaires pour ça. Ce qui m'a intéressé par contre, c'est le slogan qui a été levé par ce groupe de manifestants. Et je ne sais pas, moi personnellement, je lis ça comme une sorte de légitimation de leur action parce que c'est le même slogan que la révolution du 14 janvier, Shorol Harriya Karama Wataniya. Travail, liberté, dignité nationale. C'est vrai que la revendication, elle est particulière, elle est destinée à un ministère particulier, un représentant de l'État particulier, mais en même temps, on continue à lever, même après une décennie révolutionnaire, donc le même slogan en arabe, Shorol Harriya Karama Wataniya. Alors, شغل travail, حرية, liberté, كرامة وطنية, dignité nationale.
Merci.
Merci.
Yacine Turki est maître de conférence en urbanisme. Nous lui avons demandé ce que la révolution de 2011 avait changé concernant l'espace public.
Premièrement, donc, le regard des citoyens et citoyennes à l'espace public, qui était avant considéré comme l'espace de l'autre, et par l'autre, je veux dire principalement donc, le régime, l'autorité en place. C'était inimaginable de penser que les personnes allaient investir l'espace public de cette manière que nous avons pu observer ces 10 dernières années. Mais en même temps, il y avait une sorte d'appropriation, disons, citoyenne, civile de l'espace public, mais il y avait également en parallèle des formes d'appropriation, disons, privées par les constructions, par le commerce informel, par l'occupation informelle donc également. Donc, il y a eu superposition disons, des processus d'appropriation de l'espace public. Mais l'essentiel, c'est qu'on n'est plus dans une logique où tout le monde se limite à son espace privé. On ne s'intéresse plus à la chose publique, non. La chose publique devient un élément de débat, un élément d'action, dans les deux sens, dans le sens d'action en commun, d'action civile, d'action politique, mais aussi donc d'appropriation privée. Sinon c'est le corollaire disons, du mouvement qui a pris forme après 2011.
Mais est-ce que cet espace public a été impacté positivement ou négativement par cette réappropriation par les citoyens?
Les deux en même temps, parce que malheureusement, donc, les 10 dernières années, il n'y a pas eu de stabilité au niveau des gouvernements nationaux. Et en même temps, les élections municipales ont été très tardives donc en 2018, également connu donc des difficultés de fonctionnement au niveau des collectivités, ce qui n'a pas permis des actions disons, d'envergure, des actions systémiques au niveau de l'aménagement de l'espace public. Mais en parallèle, donc, il y a eu des actions citoyennes pour préserver, pour aménager des espaces, pour animer donc, l'espace public. Je pense que le jour où les actions citoyennes rejoindront des actions donc, institutionnelles ciblées, je pense qu'il y aura donc, une augmentation, une amélioration du cadre disons, physique des espaces publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci.
À côté de la ville coloniale, dont les rues sont larges et tirées au cordeau, et l'habitat bâti à l'européenne, il y a la Médina, dont les étudiants ont pu parcourir les ruelles sombres et animées de part en part. Une association fondée en 1967 par le maire de Tunis de l'époque se charge d'en préserver l'habitat et les habitants. L'une de ses responsables actuelles, Soulef Aouididi, nous dit pourquoi.
On a créé cette association, en fait, c'était pour vraiment être le garde-fou contre toute opération ou risque d'opération de démolition au sein du tissu donc médinal. Au fait, il y avait à l'origine une décision politique qui décidait donc de créer une percée allant de l'avenue Habib Bourguiba jusqu'à la place du pouvoir, la Casbah. Fort heureusement, donc, il y avait beaucoup des mélomanes de la Médina, des architectes, des paysagistes, des urbanistes qui ont vraiment fait main forte pour tout et ils ont pu, grâce à ça, éviter cette opération.
Une opération qui était demandée par le président Bourguiba.
Oui, par le président Bourguiba, parce que Bourguiba, c'était un petit peu cette image moderniste. Donc pour lui, tout ce qui était Médina avec l'État, dans lequel c'était le tissu ancien, incitait un petit peu à ne pas vraiment tenir compte, surtout qu'on n'avait rien, ni information, ni documents, ni publication sur cette partie donc, de l'histoire de la Tunisie. Donc à un certain moment, on s'est dit, voilà, pourquoi pas. On peut créer cette percée et vraiment avoir là l'image du pouvoir, puisque le pouvoir rime avec modernité. C'est modernité, c'était un petit peu la ville européenne avec les grands axes, le Haussmannien.
Et entre la Casbah, donc le lieu du pouvoir, et la ville européenne, il y avait la Médina, donc c'était peut-être un obstacle.
Oui, exactement, c'était vraiment l'obstacle. Et si vraiment on avait fait ça, c'était fini, parce que d'ailleurs, le classement de la Médina du Tunis était fait en 79, et c'était à cause de vraiment l'homogénéité de ce tissu urbain. Maintenant, on l'a eu à cause de ça. Hein.
Protéger suffit-il? Ne faut-il pas également aménager?
Protéger, oui. Mais il faut savoir se diriger vers ces différentes opérations de protection, c'est-à-dire ne pas protéger dans le but de protéger uniquement. Non, vraiment, il faut voir la réalité du terrain, le besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que toute opération qui a été faite par l'association, c'était dans le cadre de protéger le monumental, mais aussi de protéger le social. Donc c'est pour ça que presque toutes les opérations ont pu être réussies.
Justement, voilà. En protégeant la Médina, qu'est-ce qu'on protège précisément?
On protège, on veut que notre Médina vit. on ne veut pas qu'elle soit momifiée, qu'elle soit un musée. C'est-à-dire, c'est vrai, avoir des musées, mais on ne veut pas que vraiment on se promène uniquement pour voir des monuments qui sont là, inertes. Non, la Médina doit vivre avec ses souks, avec ses maisons fermées, ses palais ouverts, c'est un tout. C'est-à-dire, vraiment, on doit vivre le tout dans la Médina, c'est pour ça. Donc, c'est tout un vécu, avec ses traditions, avec son ouverture aussi. Voilà.
Le projet d'assainissement des Zoukalas, de quoi s'agit-il précisément ?
Ces Zoukalas, c'est des maisons pour des groupements qui vivent ensemble, de familles, mais qui n'avaient pas le moyen de gérer un patrimoine quand même monumental. On a recensé donc, des Zoukalas qui pouvaient être des monuments et qu'on devait restaurer. On a recensé des bâtiments qui n'avaient aucun intérêt et qu'on devait démolir et qu'il fallait repenser à autre chose parce qu'il ne fallait pas laisser des terrains vides au sein de l'Ultissu Médinal. Ça crée des points noirs. Et on avait des Zoukalas qui étaient destinés à l'origine à cette activité et qu'il fallait assainir quand même pour alléger et en même temps faire la remise en état. Donc le projet a permis en même temps de sauver donc, un patrimoine immobilier. On a pu faire injecter des projets, le Madrasa Al-Andalousia qui est devenu un espace donc, de lieu de rencontre pour les personnes âgées à l'échelle de la Médina, comme le Monta Siria qui a pu avoir être un jardin d'enfants à l'échelle de la Médina. Et on a pu aussi créer dans ces zones qui étaient démolies, on a créé donc des projets de relogement. Pour les gens qui sont à faible revenu, ils ont pu avoir des crédits de la municipalité et avoir à allouer donc à ces projets de relogement. La Médina vit avec les habitants qui sont à l'intérieur. On ne peut pas les nier. C'est ça son vécu, c'est ça sa force. Et en même temps, sa faiblesse peut-être. Donc, il fallait vraiment sauver tout ça.
Et pour sauver, il faut de l'argent. Et d'où vient l'argent ?
C'était le Fonds arabe de développement social et économique, le FADES. C'était une très grande opération et une très belle opération qui a vraiment réussi. Et bien sûr, quand un projet réussit, ça ne peut que donner confiance pour tout ceci. Voilà. Oui.
Un mot du soulèvement de 2011. Est-ce qu'il a eu un impact sur le travail de l'association ?
Oui, il y a eu l'impact, ça c'est sûr et certain, c'est-à-dire, c'était pas évident, c'est-à-dire s'il y en a un conseil municipal qui était élu, on a plusieurs partis, on a plusieurs idées, et on était dans une ère de révolution, donc c'est vrai que ça a eu un impact quand même négatif pour l'association, qui a dû subir presque quand même une année de crise réelle. Hein.
Donc, vous avez failli disparaître ?
Oui, mais on a tout fait pour ne pas disparaître, on n'avait pas le choix, on a résisté malgré tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de la Médina, quand ils ont un problème dans la Médina, ils viennent voir directement l'association, avant d'aller voir la municipalité, au moins pour les orienter, voilà, donc on était là pour les orienter. On a eu beaucoup de soutien de la part, en même temps des habitants de la Médina, que d'autres associations aussi.
Merci Soulev.
Merci à vous.
Après cette visite des lieux emblématiques de la Révolution à Tunis, le mot de la fin de cette émission revient à Ali Ben Saad, professeur à l'Institut français de géopolitique, co-organisateur de ce voyage. Bonjour Ali Ben Saad.
Bonjour Éric Bataillon.
Pourquoi avoir amené les étudiants de l'Institut français de géopolitique ici en Tunisie ?
Alors bon, nous sommes un institut donc d'études géopolitiques. Il n'y a rien de mieux que le terrain pour cela. Et donc notre institut organise chaque année un voyage qu'on appelle un voyage géopolitique. Le voyage géopolitique consiste à aller dans un pays, à faire des terrains concrets pour appréhender cette réalité concrète. On rencontre aussi des acteurs de la vie associative, des acteurs de la vie politique et des acteurs de la vie économique et évidemment des chercheurs. Et vous savez, on a beau apprendre sur un pays, on n'en apprend jamais autant qu'en y étant, ne serait-ce qu'une demi-journée par rapport à ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, effectivement, ça fait partie un peu de cette formation, je dirais, pratique, de confronter les gens aux réalités. Et là, si on a choisi la Tunisie, parce qu'on est à un grand tournant de la transition et on avait autant besoin de comprendre cette transition, ce processus, ce pays qui a échappé aux restaurations autoritaires, aux échecs qu'il y a eu, en fait, c'est le seul pays qui a échappé, mais qui est maintenant dans un véritable tournant de son parcours politique et qui s'interroge. Donc, je le dis avec toute notre compassion pour ce que vivent les Tunisiens, etc. On était dans un laboratoire vivant. On est venu juste après donc, le référendum de Kais Saïed, etc. Et un moment d'interrogation de toute la société sur le devenir de la Tunisie. Donc, être nous là concrètement dans le partage de ces interrogations, etc., c'est vraiment d'un point de vue scientifique, pédagogique, une situation exceptionnelle.
Ali Ben Saad, vous avez vécu en Tunisie il y a quelques années, dans les années 90. Quel changement percevez-vous dans la société tunisienne aujourd'hui ?
En fait, on découvre que s'il est vrai que la société tunisienne est probablement moins turbulente en façade que la société algérienne ou marocaine, il y a toujours eu une société civile beaucoup plus importante que dans les autres sociétés maghrébines. Et que de fait, il y avait une résistance ancienne. C'est le premier pays arabe à s'être doté d'un syndicat. Que ce syndicat, alors que partout, en fait, les syndicats, surtout dans les ex-pays qui étaient un peu réclamés du nationalisme ou du socialisme, ils ont tous été caporalisés, plus ou moins récupérés. Le syndicat tunisien n'a jamais été domestiqué, n'a jamais perdu son autonomie. C'est la première ligue des droits de l'homme au Maghreb. C'est le seul pays où les contestations ont pu aboutir à un changement politique. S'il est vrai que le soulèvement tunisien était spontané comme partout ailleurs dans le monde arabe, mais il a trouvé un réceptacle déjà prêt d'une société civile, d'ailleurs, dont on pourrait faire remonter l'existence jusqu'à la Nahda, où la Tunisie a participé fondamentalement. Elle a connu des réformes profondes à l'intérieur même du pays. Allez, je rappelle une petite anecdote. La Tunisie a aboli l'esclavage avant tous les autres pays européens, pour vous dire. Et les femmes, ce sont elles qui ont le plus résisté aux dérives islamistes et ce sont elles qui ont contribué le plus à les stopper. D'ailleurs, il y a eu une période lorsqu'il y avait cette polarisation et cette impasse en Tunisie, avec notamment les islamistes qui s'accaparaient un peu toutes les institutions de pouvoir. C'est la société civile qui les a obligés à négocier. C'est le fameux quartet qui a eu le prix Nobel. Ben, c'était quoi ? C'était l'UGTT, le syndicat, l'organisation des patrons, l'organisation des avocats, etc. Donc, c'est vraiment une leçon comment une société civile organisée arrive à imposer à la société politique une autre trajectoire. Et c'est ce qui a permis effectivement ensuite d'organiser des élections, etc.
Et aujourd'hui, vous avez le sentiment, après avoir passé une semaine avec des acteurs et des observateurs de la société tunisienne, que ce désir de rébellion, en quelque sorte, finalement, face à un pouvoir dit fort, est-ce que cela existe encore ?
Cela existe encore, et je pense que potentiellement, la résistance est beaucoup plus forte que ne l'est ce président. Mais c'est plus un problème de la société politique qui est extrêmement fragmentée et divisée. Kais Saïed, si on fait une arithmétique, il a très peu de soutien. Et en même temps, moi je partage le point de vue de certains chercheurs, ce n'est pas un point de vue dominant, que s'il y a régression en Tunisie, il n'y a pas restauration. Mais ce n'est pas un retour au passé comme on a pu le voir en Égypte, en Syrie ou en Algérie après le Hirak, etc. Et c'est parce que je pense que quand même, il reste un fort potentiel de la société civile. Probablement que la Tunisie des jours qui vient ne sera pas aussi ouverte, etc. Mais elle restera quand même, reste une résistance et ça restera toujours une des sociétés les plus ouvertes et, je dirais, est la plus tranquillement turbulente.
Merci Ali Ben Saad.
Merci Eric Bataillon.
Nous aurons l'occasion de reparler de la Tunisie dans les prochaines semaines, sur le plan politique notamment, et aussi sur le plan social. Le pays votera pour élire ses députés en décembre prochain. Orient Hebdo, une émission mise en onde et réalisée par Mathias Golchani, que vous pouvez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. On se retrouve avec plaisir samedi prochain à suivre le journal.